Amis soudanais, bonsoir. On est une bande de vieilles copines, moi c'est Marie-Fleur, regroupées au sein d'une petite association écolo, écologiste à ses échelles.
CO2, mon amour.
Venu vous dire de façon très amicale, very friendly, and détendue, cool, qu'il faut arrêter de couper votre forêt.
Hein? Avec Denis Chessoux.
Stoppez cette sale manie de niquer les arbres sous prétexte de nourrir sa famille. On est terriblement bio, on est bio. And I prove you, because ma gelapa en papier sucre est mangeable et mon string en écorce est replantable.
Sur France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, avec peut-être une émission qui tente de rapprocher les hommes en nous rapprochant de la nature, avec aujourd'hui Élodie Royer et Christophe Goudin, ainsi que Rémi Gouriou à la technique, et assisté de Camille Blanès avec Alice Michaud. C'est Stéphane Combe qui, en direct de Wheel of Green, eh bien, réalise l'émission. Qui va débuter par évidemment une petite humeur d'actualité, parce que vous prenez une bonne idée de départ qui s'appelle les états généraux de l'alimentation. Vous moulinez, vous confrontez les idées et ça devrait être une loi du renouveau, la loi d'une alimentation saine et durable. Et à l'Assemblée nationale, à l'arrivée, eh ben vous avez quasiment tous les amendements pour améliorer le sort des animaux. Allez hop, à la poubelle, du glyphosate à tous les repas, du sel, du sucre à fond dans les publicités pour enfants. Alors les abattoirs, les fermes-usines, l'agro-industrie se frottent les mains et le couteau à aiguiser. Donc en marche, oui, mais vers quoi? Sur ce coup-là, nos députés ne sont pas en marche vers une nouvelle écologie. Non, ils sortent pour beaucoup du même moule que les anciens, version 9 langues 2.0. Et quand même, bravo et respect au lobby et à la FNSEA qui ont soutenu la rédaction de la loi. Je pense que c'était juste pour corriger éventuellement les fautes de français, mais pas plus. L'écologie reste en France un essai, mais un essai qui n'a pas été véritablement encore retransformé. Alors chaque jeune part dans son sac à dos avec 25 000 euros de dette et une dette écologique. Bon, d'accord, et alors? Et il y a quand même une communauté hein, ici qui ne rêve que d'une chose, c'est avoir tort et se tromper sur toute la ligne. Ce groupe, c'est le rassemblement de tous ceux qui luttent depuis des années pour modifier nos satanées habitudes en matière de gestion de la nature. En gros, ce que l'on repousse sous le terme d'écologiste derrière les barrières du bon sens. Alors évidemment, ils aimeraient que le réchauffement climatique ne soit qu'une fumeuse chimère, que les océans ne soient pas d'immenses poubelles plastifiées, que les volailles en cage à plus de 100 000 soient heureuses et fières, que les terres agricoles digèrent tous les poisons dont on les gave sans gerber, que les ruminants aiment aux alcools d'ensilage tous les soirs se saouler, que les plaines céréalières soient plus belles sans oiseaux, sans papillons, que les rivières resplendissent de mille couleurs de colorants industriels, que le sable des plages participe à l'édification des rêves en béton des parcs d'attractions et que le glyphosate donne plus de goût exotique aux salades et petits déjeuners. Ouais, c'est un peu tout ça. Ils aimeraient tellement s'être trompés sur tout et cacher leur honte en allant à Europa City en Porsche Cayenne et avec leurs jolis enfants se réjouir d'un avenir nucléaire, radieux, la conscience sereine. Bon, mais on voit bien que la jolie société va pas très fort quand même et qu'à force de verser de la mort au rat dans sa soupe, eh ben elle va finir par ben être malade. Et il est temps de lui remonter le coussin et le moral par la même occasion. Alors croire en qui, en quoi? Eh bien l'espoir reste quand même heureusement dans les nouvelles générations, universitaires et les autres, celles agissantes au quotidien, à la fois au niveau particulier et au niveau collectif, qui n'attend pas le politique pour agir. Ah non, là monsieur le ministre, là c'est pas possible ce que vous désirez. Je sais que vous êtes sincère, mais trop d'intérêts contrariés. Tenez, c'est l'année de la couleuvre, on vous a préparé ce communiqué. Quand Nicolas Hulot a été nommé, c'était l'occasion de voir si c'était une question de personne ou de système. Aujourd'hui, donc après le vote de cette semaine qui dit oui à l'obésité, oui au glyphosate et oui aux souffrances animales, eh bien on le sait. Comme la vie et les actions politiques sont lentes et comme l'espérance fort heureusement est violente, bienvenue à Wheel of Green. Avec trois invités donc autour de cette table qui sont venus. Alors ça va être une très jolie fable. En fait, ça va s'appeler la philosophe, le forestier et le journaliste d'action. La philosophe, c'est Catherine Larrère. Bonjour Catherine Larrère.
Bonjour Denis.
Du bon usage de la nature. Voilà, ça vous avez écrit aussi cet ouvrage, mais vous en avez aussi écrit d'autres. Et puis le dernier, donc sous votre direction, qui s'appelle Penser l'anthropocène. Sur ce que j'ai un peu raconté, on est peut-être malheureusement un peu dans.
Ben on est dans le vif du sujet, je crois. Ouais, on a besoin de changer les choses vaguement, quoi.
Voilà. Et donc, cette ère de l'Anthropocène, on va pouvoir en parler aussi avec vous. À vos côtés, alors, un homme qui s'appelle Ernst Zucker et qui a écrit Les arbres entre le visible et l'invisible. Cet homme est forestier. Pour ça qu'on vous a emmené pour loin du bois de Vincennes, hein, pour vous faire plaisir, Ernst Zucker. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément des variétés qui vous séduisent totalement, mais quand même, les meubles sont en bois. Hein, vous voyez sur lesquels on est assis ici à Willow Green. Là.
Tout est parfait. Chaque arbre est passionnant.
Oui, alors chaque arbre est passionnant. Et en plus, il y a cette part d'invisible, donc vous allez nous raconter l'histoire qui nous plaît bien. Et alors, je parlais évidemment de solutions, et là, heureusement, eh ben, nous avons Valère Correard que vous écoutez sur France Inter. Bonjour, cher Valère.
Bonjour, Denis.
Alors, Changer d'air, l'air de rien, ça, c'est votre ouvrage, parce qu'évidemment, vous nous faites des chroniques toutes les semaines sur ce thème-là. Et voilà, quand on se dit, bon, ok, il y a toutes ces choses-là qui ne vont pas bien, ça n'avance pas assez vite, mais malgré tout, on baisse pas les bras.
Ah non, on baisse pas les bras, et vous venez de donner un exemple sur la loi concernant l'alimentation. Il faut que ça vienne du bas, manifestement.
Et ça va remonter par capillarité, on le sait. Donc nos trois invités sont là. On vous souhaite un très bel après-midi. Nous sommes à Willow Green avec France Inter. Oui, et le premier disque. On a un peu de musique, nous, derrière. On se demande si c'est la peine d'en passer, mais quand même, si. On va passer les chansons. Oui, oui. John Misty, c'était Mr. Tillman, choisi par Muriel Perez, notre programmatrice, donc notre premier disque. Alors, on a vraiment une programmation très, très Willow Green. Alors, on va expliquer quand même où nous sommes. Je disais qu'il y a plein d'arbres partout. En fait, là, ils sont un peu morts parce que nous sommes assis donc, sur des jolies caisses, voilà, en bois. Ernst Zucker, c'est doit être quel bois, ça, je ne sais pas. On n'a pas tapé dans le chêne, là, quand même.
Ça ressemble à...
Du sapin, on est plutôt dans le...
Du sapin ou du pin poussé très rapidement, de plantation.
Ça, vous le voyez tout de suite, ça. Lorsque vous voyez donc les je sais pas, c'est pas les cernes, comment vous le voyez, ça?
Les cernes, la couleur, l'aspect, même le toucher, les arbres ont une qualité différente, un rayonnement différent.
Bon, donc il n'a pas eu le temps d'avoir une vie très très importante, ce fameux... Et puis, alors, Valère Correard, vous, homme de solution, vous disiez...
C'est qu'on est bien quand on a des repose-pieds, ce qui n'est pas le cas là. Il nous manque un truc qu'on voit comme c'était bien avant.
C'est ça. Mais c'est bien parce qu'en même temps, c'est des conditions, on va dire, presque très très nature, vous voyez.
Sylvestre.
Mais oui, c'est des situations sylvestres. Alors, Catherine Larère, vous êtes philosophe, vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne. Vous avez beaucoup travaillé sur ce rapport entre la société et la nature, avec du bon usage de la nature, qui est devenu, on va dire quelque chose de connu dans le monde de l'écologie, qui était d'ailleurs en réponse aussi au nouvel ordre écologique de Luc Ferry.
Tout à fait. Hein, mais j'espère qu'il a duré plus longtemps.
Voilà. Et mais il y aura encore. Et il y a cet ouvrage chez Sciences Po, donc aux presses de Sciences Po, qui s'appelle Penser l'Anthropocène. Alors ce mot est arrivé en fait dans notre un peu vocabulaire, pas pour tout le monde, les gens qui se disent mais qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène ? Bon, on est dans les années à peu près 80. Anthropos, donc c'est l'homme. Et alors, quel était le but de cette histoire-là ? Parce qu'on était quand même dans une dialectique entre des sciences dures et puis ce qu'on appelle les sciences molles, ou en tout cas des sciences humaines.
Alors, ça part des sciences dures, ça part des géologues et des spécialistes du système Terre, c'est-à-dire prendre la Terre comme un tout et coordonner les recherches autour de la Terre comme système. Et on arrive à l'idée, donc, effectivement dans les années 80, mais qui va être affirmé au tout début des années 2000, que les hommes sont devenus, pèsent sur la Terre d'un poids qui est le poids d'une montagne, qui est le poids de la nature. Et donc,
nous sommes une force géologique.
Nous sommes une force géologique et nous sommes capables de sans le vouloir, d'entraîner des changements importants. Donc, d'où l'idée de scène, c'est le suffixe qu'on met pour désigner une époque géologique. Mmh. Donc, on était dans l'Holocène, qui était une période géologique de 12 000 ans, en gros, qui est le moment de développement de l'humanité, parce que c'est un moment interglaciaire, il fait pas froid, et surtout, c'est un moment de climat stable. Donc, l'humanité se développe, on sort des cavernes, enfin, etc. Mm-hmm. Bon, on se met à cultiver, on fait des villes, on fait de la politique. Et puis, on est maintenant, c'est l'hypothèse, on est sorti de l'Holocène, parce que on est, d'une part, dans une époque qui est plus du tout une époque de stabilité, qui est une époque pas tellement de changements continus, mais d'incertitude et de changements brutaux, d'événements imprévus, et que Anthropos, c'est dû aux hommes. Donc c'est une façon de nous faire prendre conscience que par le résultat de nos actions, nous avons transformé nos conditions de vie sur Terre et les conditions de vie de tous les vivants qui sont autour de nous, et qu'il faudrait peut-être qu'on s'en occupe un peu.
Mais est-ce, Catherine Larrère, en fait, la fin de cette division qui est très occidentale entre la nature et la culture ?
Tout à fait. Tout à fait, en ce sens que justement, Anthropos, l'homme, scène le nom d'une époque, on a à la fois quelque chose qui vient des humains et des humains qui s'occupent d'eux-mêmes, et quelque chose qui vient de la nature. Donc, il n'y a pas d'un côté l'histoire de la nature et de l'autre côté l'histoire des hommes. L'histoire de la nature rentre dans l'histoire humaine et les humains rentrent dans l'histoire de la nature. Donc, les deux se mélangent et c'est difficile à penser. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de gens qui se disent « Oh ben, Anthropocène, c'est l'âge du triomphe de l'humanité. » Non, c'est plutôt l'âge de sa... peut-être pas faillite, mais de sa faiblesse.
C'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu peut-être de nous rendre humbles, ça nous rend aussi peut-être un peu arrogants.
Voilà, on parle de nous, parlez-nous de nous, il n'y a que ça qui nous intéresse. Et donc, on parle des humains, tout ça, c'est très bien. Oui, pas pour en être fier, sûrement pas.
Alors, Ernst Zucker, justement, cette période-là, comment vous la vivez, vous, ce mot d'anthropocène ? Parce que lorsque l'on est forestier, évidemment que le temps long, alors n'est pas le temps de la géologie, on est bien d'accord, mais quand même le temps long, avec des arbres qui sont arrivés sur cette terre il y a 300 millions d'années à peu près, pour les premiers qui étaient des épicéas, comment on vit ça ?
On a un petit peu de recul, effectivement, en tant que forestier, avec une autre échelle de temps au niveau professionnel. Mais concernant les forêts et de ces aires géologiques, de ces aires, par exemple, la glaciation, les dernières glaciations, c'est 10-12 000 ans avant notre époque. Mm-hmm. Et depuis ce moment-là, des forêts énormes s'étaient installées. La nature met des arbres partout où elle peut. Si c'est possible, il y a des arbres. Donc l'Europe était couverte d'arbres. Et l'effet de l'homme sur cette nature qui était là en Europe, c'est d'en avoir fait des déserts agricoles. Donc on peut se demander d'où vient la fertilité de ces champs. C'est une fertilité forestière d'origine. Et on a vilipendé
cette
richesse.
Et ça, les gens l'ont oublié, c'est-à-dire qu'en fait, les sols, qui est extrêmement important, donc fertile, vous le dites bien, de ces champs, c'est bien parce qu'il y avait des forêts, donc avant. Donc ça a été l'humus et les couches d'humus successives.
C'est un héritage de la forêt qu'on a utilisé de manière relativement précautionneuse au début, mais depuis l'industrialisation de l'agriculture, c'est vraiment... on a entamé le capital de manière dramatique. Et on sait maintenant comment retrouver, reconstruire ce capital. grâce aux arbres.
Oui. Et alors, lorsque l'on parle aussi, vous avez des gens, vous l'avez un petit peu évoqué, Catherine Larère, qui vont se dire, mais de toute façon, la technique va nous sauver. C'est-à-dire qu'il y a un côté technophile, où on y va, on va inventer de nouveaux puits de carbone, du stockage, etc. Enfin, bref, la technique nous sauvera sans changer nos modes de vie.
Mais c'est ça qui est absurde, parce que ce que nous a appris l'histoire, disons, de récente, c'est que effectivement, nous sommes de plus en plus puissants techniquement, mais il y a toujours des conséquences involontaires. Et donc, ce dont nous souffrons aujourd'hui, le changement climatique dont nous souffrons aujourd'hui, c'est l'ensemble de conséquences non prévues, non voulues, mais qui sont là, de notre développement technique, de la révolution industrielle. Donc, se dire que oh, on trouvera toujours une solution, on va envoyer dans l'atmosphère des parcelles métalliques qui vont renvoyer les rayons du soleil. Oui, ben, ça aura des conséquences qu'on n'a pas prévues et qui seront peut-être pires que ce qu'on essaie d'éviter. Donc, c'est pas qu'il faut abandonner la technique, c'est qu'il faut changer de façon d'avoir rapport à nos techniques et changer de mode de vie. Sans changement de mode de vie, on ne s'en tire pas.
Lorsque l'on parle de cet anthropocène, est-ce que derrière, évidemment, qu'il y a quand même une critique du capitalisme aigu dans lequel nous vivons ?
Alors, c'est pourquoi il y a un certain nombre de gens qui ont proposé qu'au lieu qu'on parle... Parce que dire anthropocène, c'est rendre anthropos, c'est-à-dire l'humain, responsable de ce qui se passe actuellement, du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, etc., etc. Or, c'est sûr que les populations humaines sur Terre sont très inégalement responsable de ce qui s'est passé. Donc un certain nombre d'historiens ont proposé que plutôt que de parler d'anthropocène, on parle de capitalocène, pour bien dire que c'est le capitalisme. De capitalocène, pour bien désigner que, bon, c'est pas seulement la révolution industrielle, c'est une révolution industrielle faite d'une certaine façon, faite pour en recherche de productivité, de profit, etc., qui est le responsable de la situation. Bon, ceci dit, c'est anthropocène qui l'emporte quand même, mais il faut se souvenir un petit peu d'où ça vient.
Oui, c'est-à-dire à un moment, c'est vrai qu'on n'a pas été moralement responsable parce qu'on ne savait pas forcément. Aujourd'hui, on sait, on sait exactement ce que l'on fait. On sait qu'il y a 90 sociétés qui vont être responsables quand même d'une part extrêmement importante des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était pas forcément intentionnel, quoi.
Ah non, c'était certainement pas.
Et c'était pourtant l'Occident et le début du capitalisme.
C'était certainement pas intentionnel quand on a commencé à comprendre le mécanisme de l'effet de serre. Même en fait, c'est Arrhenius, c'est un Suédois qui a commencé à penser ça. Et lui, comme il vivait en Suède, il s'est dit mais si ça se réchauffe, c'est très bien.
Bien sûr.
La Suède va devenir une sorte de Côte d'Azur. Donc on est à
Et la Sibérie peut devenir un Middle West, après tout, pourquoi pas,
Bon, sauf que en fondant le permafrost libère des virus. Bon, il y a toujours des conséquences.
Et un peu de méthane quand même aussi.
Et un peu de méthane, et donc ça augmente le phénomène, etc. Mais non, au départ, bien sûr, quand on a brûlé du charbon puis du pétrole, on n'a pas pensé aux conséquences que ça... Mais maintenant, on est devant. Alors maintenant, on sait ce qu'on fait. Alors, ceci dit, oui, c'est vrai qu'il y a un petit nombre de multinationales qui sont responsables. Et je dirais que nous sommes tous à un certain degré, beaucoup plus faible que d'autres, mais nous vivons, nous respirons, nous consommons des choses qui ont été produites avec des émissions de CO2. Donc c'est pas quelque chose qui nous est, nous autres humains ordinaires, complètement étrangers.
Et alors justement, on essaye de sortir de cela les uns les autres, cher Valère Coréard, donc avec entre autres cet ouvrage, donc le guide pratique pour réussir sa transition, changer d'air, l'air de rien, jeu de mots, formidable. Très bien. Donc, et en fait, vous partez du principe très simple, du concept très simple, d'égologie.
Oui, alors je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu quelque part, mais je le trouve pertinent parce que est-ce qu'on n'en a pas un peu ras-le-bol qu'on nous dise on est tous responsables, on s'est mis dans la panade, il y a des enjeux qui nous dépassent, on a peur de manger, on a peur de sortir de chez soi, on a peur de sortir nos enfants, d'aller faire du sport, enfin, on a presque la peur au ventre, on est face à des enjeux qui nous dépassent.
Et moi, j'ai pas. En plus, on nous culpabilise parfois.
Et en plus, on nous culpabilise et on nous dit même qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. C'est souvent ça. Alors, moi, je suis parti d'un autre. C'est une autre façon de penser les choses. Je suis parti de l'individu et je me suis dit plutôt que de vouloir changer le monde, on va déjà essayer de mieux vivre dans le monde dans lequel nous sommes. Donc, comment est-ce que je peux me sentir en meilleure santé, me sentir plus libre, gagner du temps, penser à mes enfants, à la qualité de ma vie et en même temps C'est une phrase, c'est une expression un peu à la mode.
Oui, allez-y, allez-y.
Elle marche bien.
Ça marche bien, ça marche
voilà.
Bien.
Et en même temps,
elle n'est pas déposée.
Changer des choses, changer de paradigme et faire avancer l'intérêt général dans la bonne direction. C'est-à-dire finalement, c'est redonner du sens à mon quotidien, mais en pensant d'abord à moi. Oui. C'est ce que j'ai essayé de faire.
Bon, alors, est-ce que ceci change le système, on va dire, de l'intérieur? Ça pourrait changer le système, on va dire, de l'intérieur. On est plus dans l'implosion que dans l'explosion, quoi.
Bah oui. Enfin, c'est ce que disait Madame Larrère à l'instant, c'est que finalement, nous sommes des consommateurs, nous sommes des citoyens, donc on achète et on vote. En gros, voilà, les deux jambes. Avec ça, on change le monde. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, si à un moment donné, vous parliez tout à l'heure, Denis, des élus qui n'étaient pas vraiment en marche vers notamment la
protection. Récemment, non, c'est,
hein, voilà, c'est, on est d'accord. Mm-hmm. Bon, si à un moment donné, il y a vraiment une attente des sondages, des bouleversements dans le paysage électoral à ce niveau-là, ils vont se mettre en marche vers ça, il n'y a pas de souci. Hein.
Bon, je prends une petite Charlotte, ça vous dit? Une petite Charlotte, c'est pas pour le dessert, non, elle s'appelle Gainsbourg, c'est bien aussi, elle est à Willow Green. Ring aux roses, c'était Charlotte Gainsbourg qui sera elle aussi qui est à Willow Green.
On l'a pris en flagrant délit.
En flagrant délit de quoi?
Il a posé des collets en bordure du petit bois.
Destruction de lapin. Mais c'est un homme précieux. Faut le lâcher tout de suite.
Monsieur le marquis me plaisantait.
Je savais bien que monsieur le marquis me comprend.
Il reste un homme intelligent, lui. C'est pas comme ce grande brute.
Grande brute.
CO2, mon amour.
Si je braconne, c'est pas par méchanceté. C'est pour nourrir ma vieille mère.
Que le marquis, il n'a pas de vieille mère.
Moi, j'en ai pas de vieille mère. Moi, j'en ai pas de vieille mère.
Sur France Inter.
Mais oui, mais si on braconne, ça veut dire qu'il y a aussi des forêts, ça veut dire qu'il y a aussi des arbres, ça veut dire qu'il y a aussi un forestier indispensable ici, Ernst Hozouker, donc avec nous, forestier, professeur et chercheur en sciences du bois, chargé de cours aux écoles polytechniques de Zurich et de Lausanne, qui a travaillé aussi comme bûcheron et puis qui a dirigé un centre de recherche agroforestière au Rwanda quand vous étiez un petit peu plus jeune, et ça a été vraiment un véritable déclencheur. Juste une petite question, puisqu'on est quand même dans dans Wheel of Green, vous avez donc ce merveilleux mélange entre le monde artistique, les arts, la chanson, et aussi donc l'écologie. Voilà, l'un et l'autre, ça se marie bien quand même, l'art et l'écologie, d'une façon générale.
Oui, pour moi, ça correspond vraiment. J'ai l'impression que faire de la bonne science, c'est quelque part de l'esthétique, avoir des idées originales, c'est un peu ce qu'essaie de faire un artiste. Et d'un autre côté, c'est intéressant, beaucoup d'artistes maintenant de plus en plus me contactent en disant ce que vous écrivez au niveau scientifique nous interpelle. Donc la science est capable éventuellement aussi de mettre des mots sur ce qu'entreprend un artiste. Donc cette interaction me semble très fructueuse.
Catherine Larrère, sur ce thème.
Il me semble, comme on disait, il faut changer de vie. C'est par la culture qu'on change de vie, c'est pas uniquement par les idées ou par la science. Et donc je pense que le lien entre culture et écologie, c'est essentiel dans la transition vers un autre système.
L'écologie, est-ce que c'est, on en parle très souvent avec Frédéric Danhué, en disant que c'est la première des sciences sociales, presque aujourd'hui.
Pourquoi pas, hein? Oh, pourquoi ouais. Pas. D'ailleurs, on parle de socio-écosystème. Ouais. C'est la leçon de base de l'écologie, c'est que tout est interconnecté, c'est tout ça. Est interdépendant. Donc, on est dans des réseaux et on est en société. Et d'ailleurs, il y a eu des échanges entre l'écologie comme science et les sciences sociales, l'idée de communauté végétale, on a repris un terme, donc oui, on peut dire ça.
Alors, il y a plein de gens là qui sont en train de parler aussi des arts, parce qu'on a parlé donc des tables, des bancs sur lesquels nous sommes, c'est peut-être pas le sujet le plus important, quoique ça c'est à la fin de, on va dire, vous avez écrit les arts visibles et invisibles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement l'arbre transforme l'invisible.
Oui, c'est absolument impressionnant. L'arbre tire sa matière de l'invisible. Si vous prenez l'analyse chimique de l'arbre, c'est 50% de carbone, 44% d'oxygène et 6% d'hydrogène, moins de 1% d'azote et d'autres éléments. Donc tout provient du CO2 de l'air ou bien lors du cycle de l'eau qui passe de liquide à vapeur pour revenir à l'état liquide. Et c'est donc soit un cycle gazeux, soit un cycle gazeux liquide, c'est effectivement de l'invisible. Et l'arbre, c'est de la matérialisation d'invisible, c'est de la transformation en énergie chimique de l'énergie lumineuse. Et là, en faisant ça, l'arbre joue un rôle absolument central au niveau mondial comme système, on pourrait même parler d'un organisme mondial. Ces forêts tropicales, par exemple, sont un organe de protection à l'endroit où l'impact solaire est maximum, et les forêts ont leur réserve en eau et transforment, font de l'évapotranspiration, transforment cette énergie solaire en biomasse. Plutôt que de laisser du désert prendre place, les forêts font de la biomasse et mettent en route les cycles de l'eau. Voilà ce qu'on fait de l'invisible lorsqu'on est un arbre.
Alors vous êtes aussi un chercheur assez atypique parce que vous êtes un ingénieur forestier, vous avez mêlé la science et la spiritualité. C'est-à-dire que vous accordez autant de crédit aux mythes qu'aux lois physiques. Qu'avez-vous observé?
Alors si on prend les mythes, bon, il y a cet arbre cosmique qui a toujours été présent au centre des grandes cultures du passé, même de la nôtre, la culture européenne, la place de l'If dans les cultures celtiques est énorme. Mais moi, un peu plus rapproché de ça, c'est les savoirs ancestraux, traditionnels. Est-ce que c'est de la superstition? Est-ce que c'est de la mythologie? Ça m'a beaucoup intrigué. C'est trop présent partout pour que ce soit simplement de la superstition. Et ça a été une inspiration de thèmes de recherche, des hypothèses de recherche qui ont été extrêmement fertiles.
Oui. Et alors, vous avez été imprégné de cela, vous êtes intéressé à l'art, peut-être parce que vous, petit, dans votre canton de Vaud, donc en Suisse, hein, la forêt a rythmé en fait votre enfance. Et vous n'êtes pas allé à l'école avant l'âge de 6-7 ans, c'était ce que l'on faisait. Donc, et pendant ce temps-là, bah, vous faisiez des nuits buissonnières.
Des nuits forestières, des nuits buissonnières, ouais. Effectivement. Non, c'était vraiment une chance magnifique d'être dans un petit village de campagne. La dernière époque où les moissons se faisaient encore avec le cheval. Pensez aux odeurs qu'il y avait dans ces champs de blé moissonnés par des chevaux, c'était superbe. Mais à côté de ça, il y a les forêts toutes fraîches avec les ruisseaux, avec les truites et les écrevisses. Et là, vous êtes enfant, personne ne vous demande de rentrer à quelle heure que ce soit, et entièrement libre. Et là, on apprend pas mal de choses. Bernard de Clairvaux disait « Les arbres et les pierres vous apprendront plus de choses que ce que les maîtres ne peuvent ». J'ai vécu ça.
Il n'était pas si loin de la Suisse, hein. C'est l'autre côté, hein, Bernard de Clairvaux, donc aussi.
Oui, voilà. C'était aussi des régions boisées, pas
et
très
oui,
loin.
Bien sûr. Lorsque vous prenez une pomme de pin, alors on n'a pas de pomme de pin là, donc, ici, mais vous dites que les lois de l'univers sont dans le cône.
Oui, exactement. La clé de l'univers est dans un cône de pin. C'est absolument clair. Il faut savoir lire la nature.
Ça, c'est pas clair pour tout le monde.
Non, justement. Racontez-nous. On n'a pas encore compris.
Il faudrait que j'aie un cône sous la main, mais imaginez, chaque écaille, elle est dans des spirales, orientée vers la gauche, orientée vers la droite.
Oui.
Vous prenez du mélèze, du sapin blanc, de l'épicéa, du pin sylvestre, du pin maritime, et tous les résineux, les conifères que vous pouvez. Et le nombre de spirales dans un sens ou de l'autre, dans l'autre est toujours dans un rapport, le nombre d'or. Et le nombre de spirales varie de 5, 3, ou bien 5, 8, 8, 13, etc. Ça appartient à une série de mathématiques très connues, Fibonacci. C'est des mathématiques les plus subtiles, des livres entiers.
7 siècles à peu près, Fibonacci. Hein,
1500.
Oui, ça.
Il a introduit le zéro dans le monde occidental. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport entre dans cette série de deux nombres successifs, où chaque nombre est égal à la somme des deux précédents, se rapproche de plus en plus du nombre d'or, qui est un nombre irrationnel. Bon. C'est assez paradoxal de la part d'un mathématicien de faire de l'irrationnel avec ces mathématiques.
Alors, ce que l'on va comprendre peut-être un tout petit peu mieux, c'est que toutes les cultures ont accordé une grande importance donc à la Lune, aussi votre grand-père, hein, qui était aussi dans les forêts. Et donc, on ne prélevait pas les arbres, on ne les coupait pas n'importe quand. Donc, ce rapport entre arbre et Lune, s'il vous plaît.
Oui, c'était un rapport extrêmement proche. Il y avait un très grand respect par rapport à l'arbre. Le bûcheron n'entrait pas en forêt comme ça, de but en blanc. Il y avait un rapport avec la forêt. On soignait la forêt et on prenait un peu de recul par rapport au moment de l'abattage. Encore actuellement, on marque les arbres bien à l'avance. À l'époque, on faisait même une prière avant d'abattre l'arbre. Et là, c'est quelque chose d'assez fort. Aujourd'hui, on fait peut-être plus de prières, mais on fait de la méditation devant les arbres, en touchant les arbres. Donc, on se reconnecte avec quelque chose de très ancien.
On prend des bains de forêt aussi.
Prend des bains de forêt, et là, c'est beaucoup plus efficace. Ce n'est pas du tout de la représentation qu'on se ferait. Il faut penser que le sol forestier, l'atmosphère forestière est chargée électroniquement, elle est chargée électriquement. Donc lorsque vous êtes en forêt à toucher un arbre ou bien pieds nus sur le sol forestier, vous rechargez les batteries carrément. Vous avez un courant électrique qui vous pénètre le corps et c'est en train d'être redécouvert. La revue Vogue, il n'y a rien de plus en vogue que ça, thématise ce sujet comme étant vraiment un sujet extrêmement fort actuellement. C'est le réensauvagement. L'homme est en train de redécouvrir ce dont il a vraiment besoin et il reprend contact avec la plante des pieds, avec le sol.
Non, mais effectivement, il y a beaucoup d'études d'éco-psychologie qui travaillent beaucoup là-dessus et qui disent l'importance du rapport à la nature. Et dans une histoire comme la vôtre, ce qui s'est passé dans l'enfance, c'est particulièrement important. Puis aussi, ça sert de référence pour juger de l'état actuel.
Exactement. Le problème actuellement, c'est qu'on a les jeunes n'ont plus de référence. Ils savent à peine d'où viennent les choses. Et c'est très important de réinventer l'éducation, de réintroduire, remettre les enfants en contact avec la nature le plus tôt possible. Plus un souvenir est ancien, plus il est profond et plus il est actif.
Mais alors pourquoi en fait une forêt est un bel exemple de solidarité ?
Alors ça c'est magnifique. Vous prenez une forêt vraiment naturelle, qui se ressème naturellement, pas une plantation où l'homme a choisi de sélectionner une seule espèce. Tous les arbres sont solidaires. Il y a des arbres qui ont des racines profondes, d'autres des racines superficielles. Lorsqu'il fait très sec, ceux qui ont des racines profondes arrivent à s'alimenter, alimentent leurs propres racines superficielles, ces racines transpirent, humidifient le sol, et ça profite aux arbres, aux racines superficielles. Donc le sapin et l'épicéa poussent toujours ensemble en profitant l'un de l'autre.
Ils ont besoin de quoi? Alors ça va dépendre de la taille, de l'emplacement, mais 500 litres d'eau, non, je sais pas, en moyenne, par jour, il en faut.
Ça peut aller dans ces dimensions-là, ça peut être considérable, mais cette eau est là à disposition. La forêt est capable de faire un stock énorme, mais lorsque tout est jaune, tout est sec dans le paysage, La dernière partie verte, c'est encore la forêt. Là, il y a encore de l'humidité, il y a encore de la transpiration et de la fraîcheur qui se dégage.
Tandis que votre gin, il a besoin de 8000 litres d'eau et de 32 kilos de matières premières. C'est ce que je vois effectivement dans le livre de Valère Correa, « Changer d'air, l'air de rien ». Donc là, en fait, on apprend à ne pas faire trop et n'importe quoi. C'est, on met quand même des chiffres, on met en face, ce n'est pas les équations, mais sur l'acte d'achat, avant, c'était génial, c'était carte bleue, bon, terminé, on ne s'occupait pas. Là, maintenant, non. On fait attention à cela, la fabrication, le CO2. Vous rappelez que chaque seconde 1000 mégots sont jetés par terre en France, etc., et que ça contient 4000 substances nocives.
Ouais. Et qu'au contact de l'eau, ça pollue 500 litres d'eau. Quand on jette un mégot dans la rue, en pensant que quelqu'un va le ramasser ou que ça partira dans les égouts, en fait, ça peut pas être filtré, un mégot qui est en contact avec l'eau. Donc ça pollue 500 litres d'eau, un seul mégot. Et je crois qu'en rappelant aux gens, en les informant, c'est un peu le boulot d'un journaliste, ça permet de considérer la réalité qu'il y a derrière les choses et derrière des petits gestes. C'est-à-dire qu'au-delà des bénéfices dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi les enjeux, bien sûr, et ça, ça en fait partie. Quand on sait, après, on aborde les choses différemment, non ?
Oui, c'est tout. C'est... on distille tout ça. Avant, on y allait allègrement. Je rappelle aussi qu'un gin, avec les différents matériaux que nous avons les uns sur les autres, il fait en moyenne 15 000 km.
Oui, il peut faire jusqu'à 65 000 km.
Ah oui, vous en avez un de luxe. Oui,
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un deuxième prix derrière l'étiquette. Il ne faut pas oublier ça. Quand on paye bien un jean 15 euros, 20 euros ou 10 euros dans un magasin, il y a un problème. Il y a un problème social, bien sûr, derrière, les conditions dans lesquelles il a été fait. Ce n'est pas pour rien qu'on l'ait fait au Bangladesh ou au Vietnam ou ailleurs. Ce n'est pas pour soutenir l'économie locale, n'est-ce pas ? Voilà. D'autre part, il y a un problème écologique qui est majeur. C'est que c'est quand même à peu près la deuxième industrie la plus polluante au monde. C'est le textile. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est énorme. Et donc, ça veut dire que l'argent qu'on met n'est pas le juste prix de ce jean. Par contre, comme on en fait beaucoup, on peut l'acheter en seconde main. Voilà une solution pour faire des économies. Il va coûter 2 ou 3 euros le jean là, hein, et ce sera écolo.
Bon, Catherine, sur ces thèmes-là, Catherine Larrère.
Tout à fait. Je crois que ce qui il faut qu'on se sente impliqué sans se sentir coupable.
C'est essentiel.
Moi, je porte un jean en ce moment, donc je suis par là lié.
Mais on peut porter un jean.
Non, c'est pas la question. Hein. Mais que je comprenne que je suis lié à ceux qui produisent le jean et qu'il y a donc une forme de responsabilité, qui est une responsabilité, non pas une culpabilité, mais qui, d'une certaine façon, m'engage à essayer de transformer la situation dans laquelle on se trouve et où des gens sont surexploités à produire des jeans au Bangladesh.
Et en un instant, si vous le permettez, Denis, il y a des solutions. Et c'est une grosse partie du guide que j'ai écrit. Oui, c'est-à-dire qu'on peut passer outre ce jean avec ce deuxième prix derrière l'étiquette. Et notamment des jeans faits en France. À 99,5% fait en France. Je pense à 1083, pour ne pas les citer, qui est une marque exceptionnelle.
Ils sont
à Romans, en Isère.
Ils sont en Isère.
C'est un peu une capitale du textile quand même, l'Isère. Et donc, ils font tout entre Postpoder en Bretagne et Menton dans le Var. C'est les deux points les plus éloignés de la France. Ça fait 1083 kilomètres.
C'est pour ça qu'il s'appelle effectivement 1083. Et donc, on l'a et c'est chez nous. C'est formidable. Un petit tour en Islande. Mais oui, elle sera là ce soir et vous l'écouterez sur France Inter. Qui sait ? Björk. So peaceful until you fall in love. See through the sky up above. See through is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over. So quiet. And so peaceful until
starts another big riot. You blow a fuse, see boom, the Democrats lose, see boom, so what's the use? Wow, I'm falling in love. The sky blues and the Democrats lose. You blow, 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 blow your fuse. Ah! When you fall in
Tu leur parles aux arbres?
Ah oui, oh oui, ah oui, 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 je dis mon Dieu. Mais je vois sur la route de Chargeloup, il y en a un énorme, 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 il n'est pas beau. Il n'a certainement pas une grande, grande valeur.
CO2, mon amour?
Je reste assise là à lui parler. Mais quand je regarde ses bras, tordus, tortillonnés, tu sais, pleins de nœuds, j'ai dit mon Dieu, il en a eu des coups de vent et des tempêtes et du tonnerre, il a tout eu, il a souffert autant que j'ai souffert. Et qu'est-ce qu'il a pas entendu dire aussi sous ses ombrages, hein? Il y a peut-être des amoureux qui sont venus par là aussi, hein?
Sur France Inter.
Voilà, donc ça c'est une femme extraordinaire qui s'appelait Marie Guérin et c'était ma grand-tante. Là, la gamine que vous entendiez à l'époque quand je l'avais enregistrée, elle n'avait que 91 ans, hein, c'était ça. Et alors, on parlait pas d'écologie du tout dans ce département de la Nièvre ni ailleurs à cette époque, mais elle allait voir les arbres, vous voyez, Ernst Zurker, elle les enlaçait, elle avait compris qu'il y avait une énergie donc folle dedans. Et puis que l'écologie était donc la science des équilibres. Voilà. Alors, lorsque l'on voit des arbres, on peut penser aussi à la pluie. Alors, on ne sait jamais qui est l'œuf, qui est la poule. Comment ça se passe est-ce que la pluie est attirée par les arbres? Est-ce que c'est les arbres qui vont fabriquer la pluie? Racontez-nous.
Alors, on a malheureusement beaucoup d'expérience à ce sujet pour répondre à la question. Vous avez une île, par exemple, Lampedusa, qui était complètement couverte d'arbres à l'époque, qui avait ses pluies, qui avait un régime hydrique, a été malheureusement surexploité et les arbres ont été vraiment radicalement coupés sur cette île. Elle est devenue invivable, il n'y a plus d'autonomie hydrique sur cette île. Les pluies ont cessé de tomber simplement sur une île. Donc aujourd'hui, on sait que les arbres émettent naturellement de l'eau par évapotranspiration, fabriquent des nuages. Et ils sont responsables pour la chute, la précipitation, la condensation de l'eau. Parce qu'il faut savoir que pour chaque goutte de pluie, c'est à l'origine un flocon de neige, il faut un grain de condensation. Ça ne se passe pas simplement dans le vide. Donc les forêts émettent énormément de substances microscopiques, chimiques ou physiques, des grains de pollen par exemple aussi. Et ça provoque la chute des pluies lorsque les nuages passent par-dessus. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas remplacer simplement un grand arbre avec un système racinaire très important dans le sol par un jeune, comme on le fait trop facilement en ville, en croyant qu'il y a un risque avec ces grands arbres, on va éliminer le risque, on va mettre un jeune à la place.
Ça, nos élus adorent ça. Dès qu'ils peuvent foutre un arbre en l'air, ils sont quand même très forts. Donc, je ne vais pas faire de généralité, mais quand même, il y en a beaucoup,
très, très
beaucoup. Toutes les semaines, on reçoit des mails avec Baraton pour nous dire, allez, hop, que ce soit à Gien ou ailleurs, etc. Ça tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Oui, oui. Je crois que Paris est très restrictif avec ça. Oui, on commence vraiment à faire attention à
c'est
ça.
Exact.
Il faut respecter cette démarche. Mais il faut vraiment attendre le plus tard possible, le plus longtemps possible avant d'abattre un grand arbre. Ils sont, rien que du point de vue du régime hydrique, extrêmement importants. Pensez ensuite à l'énergie et à tout ça. On pourrait revenir sur le sujet.
Les pulsations dans les fûts d'arbres, vous avez travaillé cela. Moi, j'étais assez épaté. Qu'est-ce que c'est ce système de pulsation d'un arbre?
Oui, ça, c'était une très belle histoire. Ensemble avec Francis Allais,
oui.
On était mis en contact. Une découverte a été faite que les arbres, lorsqu'on les met en humidité constante, dans une serre en conditions constantes, dans deux pots différents, ils continuent de pulser dans leur diamètre. On mesurait le diamètre à quelques centièmes de millimètre près. Et on se rendait compte que le diamètre augmentait et diminuait simultanément pour les deux arbres qui étaient dans deux pots différents, avec obscurité constante. Et ça avait été publié, mais sans expliquer le phénomène. Et ensemble avec ces chercheurs, on a repris ces données, on a fait calculer les marées gravimétriques rétrospectivement pour l'endroit où la découverte a été faite, et on a pu montrer que c'est des pulsations gravimétriques, c'est-à-dire c'est comme des marées dans les arbres qui ont lieu lorsqu'on escamote un peu l'effet du soleil. Vous avez l'effet de la lune qui reprend le dessus. Chez nous, en hiver, on met des électrodes sur les arbres, on observe les pulsations lunaires. Même par moment en été aussi. Donc les arbres pulsent hydrologiquement dans leur physiologie, mais aussi électriquement. On met des électrodes sur les arbres, c'est extrêmement vivant, et tous les facteurs interagissent à ce niveau-là.
Et est-ce que ça peut nous amener aussi à parler de la sensibilité ? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui se disent « Bon, bah, les arbres sont sensibles. » Peter Volleben, donc, a assis son succès. Je ne sais pas combien d'ailleurs de forêts ont été dévastées avec le succès de son bouquin sur la vie secrète de la nature. Mais lui, en fait, sa théorie, c'est de dire « Bon, en gros, il fait un peu, moi, je l'avais lancé un peu là-dessus, il est dans l'antispécisme végétal. Hein, pratiquement, c'est ça. » Quelle est un peu votre perception ?
Là, en tant qu'ingénieur forestier, je me distancie un peu de ça parce que il est possible, l'homme a déjà montré qu'il peut interagir de manière positive avec la nature. Il n'est pas uniquement un prédateur par rapport à la nature. Ce qu'on laisse derrière nous, ce n'est pas uniquement un champ de ruines. Autrefois, on savait faire du jardinage et on disait que plus le jardin a été travaillé, plus il est fertile, sans apport d'engrais de synthèse et sans pesticides. Et ça, on est en train de le refaire, de le réintroduire en essayant de réaliser un mélange entre les savoirs forestiers et les savoirs agricoles, ce qu'on appelle l'agroforesterie. Et ça, c'est une interaction positive.
Et ça marche. Et ça marche depuis très longtemps, donc, ce travail.
Absolument.
Catherine Larrère.
Très, très loin, le bocage normand est un exemple connu d'interaction positive homme-nature. Le bocage normand est au maximum de biodiversité au 19e siècle. Et le bocage, c'est typiquement œuvre humaine et œuvre de la nature en même temps. Donc on a là l'exemple d'une formation végétale qui apporte et à la nature et à l'homme. Et on a coupé les haies, on a eu tort et on revient là-dessus. Enfin, on a quand même arrêté une autoroute pour pas casser le bocage.
C'est ça.
Près du Mans.
Et Catherine Larrère, je pense à une chose, parce que Jean-Jacques Rousseau était un homme, bon, à l'époque évidemment il y avait des forêts à peu près partout, mais qui adorait cela, il adorait donc ces marches profondes dans les forêts. Qu'est-ce qui nous a appris en fait avec peut-être le contrat social ?
Mais d'une certaine façon, bon, Rousseau est un admirateur de la nature, il est très agréable à lire là-dessus, il est un petit peu plus compliqué qu'on ne le croit d'habitude, et effectivement j'ai plus appris avec le contrat social, avec le tout début du contrat social, quand Rousseau dit « l'homme est né libre et partout est dans les fers », et où il continue en disant « tel se croit le maître du monde qui ne laisse pas d'être plus esclave que les autres », et je crois que ça que Rousseau applique au rapport entre les hommes, ça s'applique au rapport de l'homme à la nature. Et je crois que l'idée, on ne peut pas être libre dans une nature dominée. Je pense que ce n'est pas possible. Et je pense que nous avons cru que nous pouvions devenir maîtres et possesseurs, comme disait l'autre, de la nature. Et je crois qu'on est en train de se rendre compte qu'on en devient de plus en plus dépendant et de façon impuissante. Donc je crois effectivement qu'il faut apprendre ce que nous apportons à la nature et ce que la nature nous apprend, c'est-à-dire avoir avec la nature un rapport de partenariat et pas un rapport de domination.
Et déjà Rousseau parlait de changer notre manière de vivre, et donc c'est ce que vous faites à votre manière, un peu rousseauiste aussi, donc Valère Coréard avec... mais oui, non, mais c'est ça.
Vivant.
Bon, sur les femmes c'était un peu limite à l'époque, c'est comme Spinoza, vous voyez, ils n'étaient pas très très au point encore là-dessus, mais sur le reste il y avait des choses quand même qui étaient tout à fait passionnantes chez eux. Qu'est-ce que vous voyez vous quand même évoluer chez nos contemporains, et quels sont les déclics justement qui sont importants pour pouvoir mettre les gens dans l'action et dans la boucle ?
La reprise du contrôle. Les gens ils veulent de la liberté, ils sont farouchement et légitimement attachés à leur liberté. On est dans une société du tout info, tout va très vite, tout doit être transparent, collaboratif, de plus en plus participatif, et ça aussi c'est tant mieux. Et je pense que cette attirance pour la liberté est d'autant plus exacerbée chez les jeunes qui arrivent dans une société qui voit bien à bout de souffle sur certains aspects. Moi j'ai une grande confiance dans la jeunesse qui, de mon point de vue, va être, sinon exemplaire, en tout cas va montrer de nouvelles voies dans, j'allais dire, une vie plus vertueuse et de bon sens. Et notamment sur tous les sujets que j'ai traités là dans ce guide, j'échange avec
beaucoup
de jeunes.
Manger sain, consommer responsable, on a tout, s'éclairer, se chauffer, s'habiller chic et éthique, se déplacer en mode écolo, s'informer sans se faire manipuler, très important aussi. Être un citoyen actif, hein, ça fait partie aussi.
Et même sans voter, hein. Vous savez qu'on peut être un citoyen actif même sans voter. Il y a pour ça ce qu'on appelle les civic tech, c'est extrêmement intéressant. On peut prendre la parole, même si on est un peu dégoûté de ces élites politiques, parce qu'il y a des gens aussi qui en ont ras-le-bol. Voilà, s'il y a un point sur lequel je pense qu'il faut appuyer, c'est pas de culpabilité. On n'est pas tous responsables, on est tous acteurs. Et le tout, c'est de retrouver sa liberté, de lui redonner du sens dans le quotidien, finalement.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, quand même, Catherine Larère, aujourd'hui, quand même, un gros problème, on va dire, de dilution des responsabilités entre le collectif et l'individu?
Alors, il y a un problème de responsabilité dans les questions environnementales. C'est pas des responsabilités directes. C'est pas Jacques a volé le vélo de Marie. Il n'y a jamais eu un rapport aussi simple. On agit et ça a des effets très lointains, très sur d'autres gens. Bon, donc on peut pas dire vous êtes responsable de ça. On peut pas dire aux gens vous êtes responsable de tant de morts du fait du CO2. Donc il y a ça. Il y a l'idée aussi que finalement on y est tous pour si peu de choses que qu'est-ce que ça change ce qu'on fait.
Hein. Et c'est là
donc,
le problème.
Donc l'idée que, mais il faut peut-être pas, on est peut-être dans une, c'est peut-être l'économie qui nous met ça dans la tête, qu'il faut toujours mesurer les conséquences, qu'il faut mesurer l'efficacité, qu'il faut être efficace. Peut-être, alors on parlait de Rousseau, peut-être qu'il faut être vertueux, c'est-à-dire faire ce qu'on doit faire et se sentir bien en le faisant. Donc, et puis, il y a aussi le fait, ce qui est un peu déprimant, c'est tout ce qu'on a appelé les petits gestes, prenez des douches et pas des bains, peut-être pas de douche du tout d'ailleurs, éteignez la lumière. Or,
ne vous lavez plus, etc.
Par exemple, ben, je sais pas. Il y avait une pub pour les nanos expliquant, mais avec des nanomatériaux dans le jean, justement, on n'aura plus besoin de les laver. Ouais. Donc ça me paraît un peu
alors,
bizarre.
Tenez, quand même, parce que tu vois, j'ai fait mon papier donc là-dessus, mais enfin, ils ont bloqué, a priori, là, l'Assemblée nationale a bloqué les nanoparticules.
Le E171.
Dans, voilà, donc le dioxyde de titane, c'est une vraie saloperie, dans les aliments. Donc ça,
bon,
c'est
déjà pas
mal.
C'est
à mettre à l'heure active.
Et donc, je crois aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des choses qui se font collectivement. Et autant d'en haut, c'est dur, autant ce par quoi vous avez commencé, bon, les décisions ne sont pas prises, autant les gens sont en train de changer leur vie. Moi, je crois que la vie est en train vraiment de changer. Et ça, c'est plutôt encourageant.
Moi, j'ai beaucoup d'espoir aussi, et j'ai plutôt une vision positive. Il y a un élan, il y a une vague qui est en train de monter clairement. Le tout maintenant, c'est de donner les bons éclairages pour que les gens puissent agir.
Et sinon, Catherine Larère, comme vous voyez donc ce monde là, qui est en train de bouger à une vitesse absolument folle, on sait qu'on ne verra pas la fin de l'histoire, et fort heureusement, c'est plutôt bien, mais il y a quand même cette articulation des temporalités qui est là derrière aussi. Et ça, c'est toujours une bascule aussi qui n'est pas simple.
Alors, pour un philosophe, c'est assez excitant. Hein, bon, donc, voir le très long terme. Bon, il faut sortir de l'idée que seul le présent compte. Bon, l'expression de temps réel, d'ailleurs, moi, m'énerve, parce que temps réel, ça veut dire simultané. Ça veut dire comme si la seule réalité, c'était le présent. Il faut se dire que demain, c'est aussi vrai qu'aujourd'hui. Écoute, et donc, apprendre à conjuguer les temporalités.
Un petit mot de fin aussi, Hans Zucker.
Oui, aussi, la nature attend qu'on agisse. Elle réagit extrêmement vite. On est étonné à quel point la nature est généreuse dans sa réaction. Et planter des arbres, c'est une démonstration à quel point les choses vont vite.
Les arbres entre le visible et l'invisible chez Actes Sud, avec une préface de Francis Allais, Hans Zucker, avec Valère Coréard. Changer d'air, l'air de rien, c'est aux éditions de la Rue de l'Échiquier et une coédition France Inter. Penser l'Anthropocène aux éditions des presses Sciences Po. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous. Merci à nos amis, à Camille Blanès, à Alice Michaud, à Stéphane Gaume qui réalisait l'émission, Muriel Pérez qui a choisi les disques. On se retrouve alors la semaine prochaine. Tiens, tenez, ce soir à 20h dans Ushuaïa TV, le MAG, je serai avec Jean-Louis Etienne comme invité. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une ronde francophone, belge, suisse et canadienne.